Louis Dantin, la locomotive. Quand Jacques Ferland, la mine exténuée, les joues creuses, les yeux rougis, se présenta devant le surintendant du Northern Canadian Railway, il fut reçu par ces seules paroles: Monsieur Ferland, vous êtes congédié. La compagnie n'a plus besoin de vos services. Jack resta là, figé sur place, comme frappé au cerveau d'une congestion. Il devint très rouge, puis très pâle. Puis sentant ses jambes flageolées sous lui, il se soutint au coin de la table en noyer sur laquelle s'étalaient des indicateurs et des paperasses. Le surintendant avait repris sa plume et continuait la lettre commencée. Il y eut un silence, interrompu seulement par le tic-tac d'un télégraphe qui bavardait dans la salle voisine. Jacques eut enfin la force de balbutier: Monsieur Cullen, j'espère que vous voudrez bien entendre mes raisons. Le gentleman releva la tête, ennuyé d'avance de l'inutile discussion qui s'annonçait. Ferland, dit-il, votre renvoi est chose accomplie. Il n'y a pas de raison qui tienne. Mais l'ouvrier ne bougeait pas, impuissant à croire à cette catastrophe, voulant protester, s'expliquer. Mais monsieur, c'est impossible. Je n'ai rien à me reprocher, je vous jure. Si vous saviez. Cullen, déjà nerveux, l'interrompit tout net. Comment vous n'avez rien à vous reprocher? Vous nous plantez là, 3 jours de suite, sans excuse, sans avis. Le 16, votre train est en gare, sous pression, bondé de voyageurs, et vous n'arrivez pas. Et nous voilà forcés, à la dernière minute, d'aller en quête d'un suppléant. Comme résultat, une bonne heure de retard, des voyageurs furieux, la circulation bouleversée sur toute la ligne. Rien à vous reprocher. Et vous pensez que moi, surintendant, je puis tolérer de pareils abus? Et depuis, où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? C'est après 3 jours pleins que je vous retrouve. Voyons, mon cher, il y a des règles ou il n'y en a pas. L'article 9 de votre engagement est formel. Vous êtes rayé des cadres de plein droit. Allez, vous en prenez qu'à vous-même de ce qui vous arrive. Sous ce déluge de paroles, Jacques s'était redressé. Monsieur, dit-il, s'animant à son tour, sachez que le 16, j'étais au chevet de ma femme mourante, incapable de la quitter une seule minute, un seul instant. Depuis lors, je l'ai veillée jour et nuit, sans une seconde de sommeil. Et ce matin seulement, ajouta-t-il, en soufflant un sanglot qui lui serrait la gorge, ce matin seulement, je l'ai menée au cimetière. Le surintendant s'inclina, très digne. Il ouvrit un tiroir placé à sa droite et en sortit un billet vert qu'il tendit à Jacques en disant: Venez, Ferland, prenez ceci. avec mes plus sincères regrets. Devant cette cynique pitié, le cœur du jeune homme bondit dans sa poitrine. Il saisit le billet d'un geste brusque, puis le déchirant des deux mains, il en jeta à la tête du surintendant des morceaux épars. Monsieur Cullen, je puis supporter vos injures, mais non pas vos aumônes. Et sans attendre la réponse, il tourna les talons et sortit. Quand il fut dans la rue, le mécanicien, un peu revenu à lui-même, fit le bilan de sa triste position. Tous les malheurs fondaient sur lui à la fois. L'âme ulcérée, brisée de cette mort d'hier, voilà qu'il se trouvait sans gagne-pain, arraché à son travail de 10 années, à un métier devenu pour lui sa vie, et cela par la plus criante injustice. Car il l'avait toujours bien servi, là, cette compagnie qui lui signifiait un congé brutal. Jamais une plainte n'avait circulé contre lui. Pas un jour il n'avait manqué à son poste. Et parce que, retenu cette fois par le plus sacré des devoirs, il avait négligé une formalité mesquine, on le jetait sur le pavé comme un chien. Qu'allait-il faire? Comment se reconstituer une vie sans foyer, sans protection, sans ressources? Jacques fut comme écrasé un instant sous le poids de son infortune. Machinalement, il se dirigea vers sa demeure. Mais la vue de cette maison, où tout lui parlait de l'épouse, aimée, lui fut odieuse. Il passa vite, le cœur serré. Alors il erra sur les avenues et les parcs, sans but, tout entier à sa douleur sombre, s'asseyant parfois sur des bancs publics pour pleurer des pleurs de rage et de détresse. Un moment, il eut faim. Il mit la main à son gousset, puis se rappela qu'il était vide. Tout avait passé depuis 6 mois en remède, en douceur pour la pauvre Louise. Et il en vint à regretter d'avoir refusé les dollars du surintendant Cullen. Allons, se dit-il, il faut que je cherche un emploi. Successivement, il frappa au bureau des 3 compagnies de chemin de fer de la ville. Ses certificats étaient excellents, ses états de service de premier ordre. Pourtant, il eut toujours la même réponse. Ah, le personnel est complet, rien à faire. Plus tard, s'il se produisait des vacances, de guerre lasse, il retourna aux abords de Northern. Un vague espoir lui disait que Cullen regretterait peut-être sa cruauté et consentirait à le reprendre. Pendant 1 heure, il fit les 100 pas devant la gare, guettant la sortie du bureau. Ce fut en vain. Le surintendant ne parut pas. Le soir était venu. Jacques était épuisé, atterré, à bout de force et de courage. Aucune issue ne se présentait à lui. Aucune planche de salut dans ce naufrage de tout. Et soudain, du brouillard de plomb où il se débattait, une pensée jaillit, lumineuse et précise, l'effrayant d'abord, puis s'imposant à lui avec une indicible logique. La mort, dans ces conditions, telle, était meilleure que la vie. Il rumina cette pensée, la pesa lentement, et elle lui parut de toute évidence et de toute sagesse. L'existence sans amour, sans travail, serait plus pour lui qu'une prolongation d'agonie. Mieux valait en finir de suite, au regard des brutalités de la vie qu'il rejetait. La mort lui parut accueillante et douce. Il la vit comme une mère qui étanche toutes les larmes et cicatrise toutes les blessures, qui clôt sur son sein les yeux qui ne dormaient plus, qui verse à toute angoisse les baumes de l'apaisement et de l'oubli. Elle serait son refuge, puisque tout autre abri lui était fermé. Et cela lui mit au cœur une détente, et il sourit à ce que serait sitôt la réunion avec Louise. Il longeait à cette heure la voie sur laquelle il avait souvent conduit sa locomotive aux jours plus heureux de la guerre. Les sillons multicolores s'illuminaient de tous côtés. Les arcs électriques faisaient scintiller de lueurs bleues blafardes les aiguilles, les disques et les rails. Au loin, à la façade intérieure de la gare, la grande horloge marquait 6h10. Jacques songea que dans un quart d'heure, le train 318, son train à lui, rentrerait de sa course quotidienne. Il revit dans l'esprit sa locomotive, si alerte, si puissante, si gracieuse dans sa robe de cuivre et d'acier. Il la connaissait tant et lui était si docile. Depuis 10 ans, elle était sa compagne de chaque jour. Et l'amertume lui remonta au cœur d'être au lendemain de son deuil séparé de cet autre ami. Mais pardieu, puisqu'il allait mourir, n'était-ce pas son étoile qu'il envoyait ici à cette heure? Mourir tué par elle, quelle joie et aussi quelle vengeance! Donc, il s'élancerait à sa rencontre et se coucherait sous les roues géantes. Elle le reconnaîtrait sans doute, et par pitié pour lui, elle voudrait terminer ses mots en le broyant dans son étreinte. De ses bras fraternels, elle le prendrait et le remettrait au bras de Louis. En proie à une exaltation croissante, Jacques bénit cette idée comme une inspiration céleste et se disposa à l'exécuter sur le champ. Il était trop proche de la gare où circulaient de ci de là des aiguilleurs et des hommes d'équipe. Mieux valait pour mourir le calme et la solitude recueillie. Il se mit donc à suivre la ligne des rails allongé devant lui à perte de vue. Les signaux familiers annonçaient la prochaine arrivée du train. Jacques prêtait l'oreille et scrutait l'espace. À mesure que les maisons s'éclaircissaient le long de la voie et que l'air frais de la campagne lui venait par bouffées au visage. Enfin, un roulement imperceptible d'abord, puis montant peu à peu, le fit tressaillir. Il ne vit rien encore, mais il sentit les rails émus d'une trépidation légère qui courait dans les veines du métal jusqu'ici froid et inerte, et un chant très moelleux, très doux, vibrait sur ses cordes comme une berceuse lointaine. Jacques se dit « C'est elle !» Le frisson du fer grandissait de seconde en seconde, et par degrés le murmure se changeait en grondement, et le grondement en tonnerre. Et voici qu'une douleur s'emparait à présent du désespéré. Il voyait maintenant au loin une lueur diffuse à travers les échappées du coteau, et la lueur grandissait aussi, mettant une buée blanche sur toute la campagne. Le cœur de Jacques se mit à battre violemment. Ce qui s'avançait dans une course effrénée et folle, c'était la mort. Sa raison et sa volonté la volaient encore, mais sa chair, soudain, se sentit saisie d'une inexprimable angoisse, sensation anticipée, des membres déchirés, anéantis, avant-goût de ce supplice instantané, mais horrible, d'un corps d'homme réduit à l'état de bouillie, pantelante et informe. Il se dit pourtant en coupant court d'un mouvement énergique, il s'étendit à travers la voix, l'oreille collée au rail et la figure tournée vers le monstre qui venait sur lui. Le train approchait toujours. On entendait maintenant son haleine courte et saccadée. Un bruit assourdissant faisait trembler le sol. Enfin, à courte distance, émergeant d'une courbe boisée, la locomotive apparut, flamboyante, affolée de vitesse, irrésistiblement maîtresse de l'espace, dardant ce réflecteur comme un œil sinistre. Dans une minute, Jacques le savait, elle passerait sur son corps qui gisait là, sur sa route. Devant cette vision, le malheureux avait perdu tout contrôle sur lui-même. Réflexion, fermeté, courage, tout avait disparu. Et la peur, une peur toute physique, mais invincible, l'envahissait jusqu'au moelle. L'instinct de la vie commandait. L'être humain avait horreur de ce dragon aveugle et sourd qui allait le dévorer. Il courait, cependant, inondant la voix d'une fumée éblouissante, jetant la vapeur à pleine bouche et semant autour d'elle un fracas d'enfer. Malgré lui, dominé par une terreur sans nom, Jacques se releva, Oh, la locomotive était à 20 pas de distance. Elle le brûlait. Elle allait l'étreindre. Il s'élança d'un bond hors de la voie et courut devant lui de toutes ses forces. Mais alors, y a-t-il une pitié dans le destin pour ceux qui n'ont pas de pitié d'eux-mêmes? Ou bien la bête de fer avait-elle entendu la plainte de son malheureux ami? Avait-elle compris sa désespérance et son appel à la mort libératrice? Dans le même instant, un choc terrible se produisit. La locomotive 318 dérailla avec un bruit pareil à un gémissement grotesque, gigantesque, et droit, tout droit, à travers le talus et la chaussée, elle s'en alla sur Jacques Ferrand, l'étreignit, le renversa, le broya sous son poids énorme, puis, comme saisi à son tour de la nostalgie de la mort, refusant de survivre à l'ami perdu, elle sauta, lançant en l'air, pêle-mêle, les débris de sa chaudière, de sa cloche, de ses roues, de ses pistons et de ses bielles.